Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque premier et troisième lundi de chaque mois à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies. Voix V-O-I-E-S, et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de Daron, de pouvoir offrir une tribune à l'autre moitié de la population qui est souvent mise de côté et qui, faut le dire, n'a jamais trop fait l'effort de s'inclure aussi dès qu'on parle de parentalité, sujet pourtant ô combien universel. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des pères? Comment redéfinir la paternité à l'aube de la deuxième moitié du XXIe siècle, alors que la société a tant changé depuis une dizaine d'années? C'est ce que j'essaie de vous offrir à travers mes interviews dans Histoire de Daron. Cette semaine, je reçois Loïc, avec qui on discute bien sûr de son parcours de daron, mais aussi et surtout de cette crèche parentale dans laquelle ils ont mis leurs enfants et à quel point cette crèche, qui a un fonctionnement très particulier, a joué un rôle central dans sa vie de père. En bientôt 100 épisodes, on n'avait jamais abordé ce sujet particulier dans l'histoire de Daron. Loïc nous explique comment fonctionne une crèche parentale, le rôle que les parents ont à y jouer. J'y ai appris moi plein de choses et j'espère que vous aussi. Bonne écoute et à très vite. Nouveauté lors de cette saison, je voudrais vous offrir la possibilité après chaque épisode de m'envoyer une réaction en message vocal. Je sélectionnerai un ou deux ou trois messages que je diffuserai à la fin de l'épisode suivant et peut-être même que j'y réagirai. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode ou envoyez-moi une note vocale par téléphone, pas plus de 3 minutes, sur l'email vocal@fabflorent.com. F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. Je vous mets toutes les infos dans les notes. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Alors on est avec Loïc. Salut Loïc.
Salut Fab.
Comment ça va?
Ben ça va bien. Écoute,
Loïc, tu es un membre de la commu.
Oui.
C'est quoi ton parce qu'il faut savoir pour les gens qui écoutent pas, qui écoutent les podcasts mais qui sont pas forcément sur Discord et tout, c'est qu'il y a un schisme au sein de ma communauté et notamment sur le Discord. Je vous mettrai un lien si vous voulez écouter, si vous voulez nous rejoindre parce que c'est vraiment marrant. Il y a des gens qui décident de, il y a des gens qui s'appellent les Fabolos et d'autres qui s'appellent les Fabolos de la les Fab de la Fontaine. Et toi, c'est
plutôt team Fab de la Fontaine.
Ah voilà. Ouais. Ok. Je vois qui vous êtes. Et tu m'as raconté. Alors je ne sais même plus dans quelles circonstances, mais tu m'as envoyé un jour un DM ou tu en as
non,
parlé.
Non, j'en avais fait un retour sur un épisode de quelqu'un qui parlait des crèches parentales et que le sujet avait pas été creusé parce que c'était pas le sujet justement. Et du coup, j'avais dit que moi j'en avais une super expérience et c'est toi qui a rebondi dessus en me disant est-ce que tu veux venir en parler. Effectivement, c'est un sujet dont on parle pas souvent et je me suis dit allez, soyons fous, let's go.
Tu vis aujourd'hui à Lyon, enfin dans la banlieue de Lyon,
ouais,
c'est ça?
C'est ça, oui.
À Villeurbanne. T'as quel âge?
J'ai 38 ans.
Ok. T'es papa de deux enfants, c'est ça?
Papa de deux enfants qui ont 8 et 6 ans, donc qui sont sortis maintenant de la crèche, qui ont bien grandi et qui sont en pleine forme, qui ont appris plein de choses dans cette superbe crèche.
Un garçon, une fille?
Deux garçons.
Ouais. Ok. Comment ça se passe?
Ça se passe comme tous les parents, ils sont vraiment adorables, mais après on est comme tout, il y a des moments difficiles, des moments, mais en règle générale, oui, ça se passe bien. Et,
tu as le droit de dire que parfois on en chie, hein, les parents.
C'est pas grave.
Voilà.
Parfois, on a envie de les vendre. Et j'en ai parlé avec une autre maman ce matin qui me disait j'en peux plus, je vais la mettre sur le bon coin.
Ouais. C'était. Tu sais que moi, je pensais quand j'étais jeune père. Un service de location d'enfants pour le week-end, tu vois. Par exemple, t'as un couple de futurs parents qui se disent, tiens, on aimerait bien tester, voir ce que ça passe. Et à un moment donné où tu leur donnes, et puis après, tu pourrais cocher, tu sais, je voudrais un enfant qui est en train de faire ses dents, tu vois, pour vraiment bien chier, ou qui a la gastro, enfin, tu vois, que tu testes un petit peu, quoi. Ouais. Ça serait sympa. Je crois que ça permettrait aux futurs parents de bien voir.
Plutôt que.
Voilà. Et toi, en tant que parent, tu es là pendant tout le week-end, t'es tranquille, tu peux. Je ne crois pas que ce soit faisable. Après, il y a pas mal de contraintes.
Et je pense que l'ARS va pas être contente.
Mais, mais bon, c'est ça. On brille de la créativité, franchement, n'importe quoi. Loïc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment t'as décidé d'être papa? Comment ça s'est passé?
C'est une volonté qu'on avait tout le temps avec ma femme. On a toujours voulu avoir des enfants.
Vous êtes rencontrés tôt?
On s'est rencontrés pendant nos études.
Okay.
Donc, truc classique, rencontre pendant les études, et puis après, on se met ensemble, et puis après, au bout d'un moment, désir d'avoir des enfants et d'avancer dans la vie.
Études?
On a tous les deux fait des études d'ingénieur.
Okay.
Voilà. Des études Bac+5 en informatique. Et,
d'accord.
Et on est resté là-dedans.
Et vous faites tous les deux encore ce
métier? Tous les deux, ouais, c'est ça.
Un couple de développeurs,
ouais,
c'est ça.
Un couple de geeks. Enfin, heureusement, on ne fait pas les mêmes choses, donc on a quand même des sujets de discussion. C'est,
ouais.
c'est plutôt pas mal.
Ok, donc l'idée, ça a toujours été de. Enfin, vous vous êtes mis ensemble et assez rapidement, j'imagine, vous vous êtes dit, ok, bah, est-ce que tu as envie d'enfant dans la vie ou pas?
Oui, voilà, quoi. Oui, non, okay. Voilà, ça n'a pas été ça a toujours été assez limpide. Le désir d'enfant, de fonder une famille, a toujours été là pour les deux.
Ok.
Donc c'est venu comme ça.
Ok. Comment s'est passé, je sais pas, l'annonce de la grossesse un jour? J'imagine que le truc se concrétise, le projet.
Ouais. Alors on a eu du mal à les avoir. Du coup, ça a été un peu long de faire ça. Et du coup, l'annonce a été plutôt sympa.
Ouais.
C'était plutôt une libération. Et c'était, oui, il y a peut-être on est passé par un périple que certains d'autres familles ont suivi.
Je veux dire des tests.
Alors voilà, il y a eu des tests en tout genre et on n'est pas allé jusqu'à la FIV, mais on était voilà, on a fait des tests autant elle que moi et des injections d'hormones et tout comme ça.
Ok.
Et mais au final, ça, on a réussi.
Un parcours pas vraiment simple, j'imagine.
Non, ouais, c'est un peu dur pour. Ouais, c'est et puis t'as plein de doutes du coup sur est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, et c'est donc c'est
et un jour pouf
c'est bon, c'est un
je
premier enfant
je crois pas que ce soit
arrivé.
Que pouf, mais
non. Il y a d'autres étapes avant, mais ouais, et du coup un enfant est arrivé, et du coup ouais, non, pas pas de fanfare, une annonce agréablement accueillie par,
ouais,
tout le monde.
Vous étiez, j'imagine, un peu stressé pendant la grossesse, tous les deux, après ce parcours-là?
Non, pas forcément. On s'est dit, bah, ça y est, c'est cool, c'est parti.
Okay. Et, confiance en la vie.
Ouais, de dire, bah, de toute façon, voilà, c'est parti, on verra bien, prendre les étapes comme elles viennent, quoi. Oui, puis la grossesse s'est plutôt pas mal passée.
De ton point de vue, en tout cas.
Ouais, de mon point de vue, en tout cas. Madame aurait sûrement d'autres choses à dire. Puis après, voilà, on a eu un accouchement par voie basse naturelle,
okay,
sans péridurale, sans rien. Donc physiologique, c'est ça, c'est le mot que je cherchais.
Oui.
Sans trop de soucis. Le seul truc, c'est que la poche des os a été percée avant l'accouchement, et du coup le membre dur C'est que notre premier garçon, il a été séparé de sa maman pendant les 45 premières minutes,
okay.
Parce qu'il a été mis faire des tests parce qu'il avait le teint de peau
qui était bleu.
Il était tout gris.
Tout gris.
Lui, okay, était bon. Tout gris. Et du coup,
on juge pas les couleurs.
Non, c'est ça. C'est... Et du coup, il a été séparé de sa maman. Donc moi, je faisais les allers-retours entre lui et elle pour lui dire tout va bien, lui montrer des photos. Et donc c'était le côté un peu qui était un peu dur de pas avoir ce peau à peau dès le début, de que la première rencontre soit retardée. Ça a été un peu dur.
Parce que c'est un moment que tu finis par attendre en fait. Et je crois que c'est sûr que tu t'imagines pas, quand t'es futur parent, de te dire que le moment de la naissance va être peut-être un moment aussi peut-être d'urgence, tu vois, où il faut soigner ton bébé, quoi, tu vois.
Ouais, puis surtout les mamans, elles galèrent tellement, c'est tellement une épreuve que si tout de suite après, une fois qu'il est sorti, on l'emmène, j'arrivais à avoir de l'empathie, à comprendre le déchirement j'en ai chié pendant plusieurs heures et puis j'aimerais bien avoir mon bébé, quoi. C'est arrêter de déconner.
Accouchement physiologique. Je vais vous linker si ça vous intéresse l'accouchement physiologique côté père, parce que j'avais eu un épisode complet avec là-dessus avec un de mes invités. Comment ça s'est passé toi de ton côté? Parce que c'est vrai que côté père, il y a une implication peut-être un peu plus impliquante, on va dire, quoi.
J'étais en soutien du coup. C'était vraiment soutien pendant toutes les contractions, de l'entourer, d'être avec elle. On a fait c'est faire des sons avec elle pour l'accompagner.
Des sons, tu veux dire?
Des sons graves pour faire passer la. Faire passer
tu,
le.
Tu chantais, tu veux dire?
Non, c'était pas vraiment du chant, c'était plutôt de.
C'est ça.
Comme ça, voilà, okay. Des sons comme ça. Pour essayer qu'elle se concentre sur quelque chose. Et voilà, l'accompagner aussi sur des. Pousser sur des mains, des choses comme ça pour que la douleur passe sans. Ouais, c'est vraiment de l'accompagnement. Parce qu'on peut pas faire forcément autre chose, quoi.
Ça.
Et donc.
Ok.
Donc, oui, non.
Je crois que c'est la première fois qu'il y a un père qui me raconte qu'il faisait des. Enfin, ce que j'appelle des chants, moi, tu vois, qui est plutôt des. Je vois très bien le truc pour.
Ouais.
Ok, j'avais jamais entendu ça.
Donc, non, c'était vraiment de l'accompagnement, du soutien moral et physique, et autant qu'on pouvait.
Ok.
Et puis après, Maxime est venu. Il est arrivé. Et. Du coup, pas de gros soucis. Okay. Donc, à part les vérifications, mais ça allait.
Comment se passe la rencontre avec ton fils, toi?
Du coup, la rencontre, géniale. C'est les premiers pot à pot, les premiers trucs comme ça. C'était vraiment à la fois une crainte d'un petit objet fragile comme ça que t'as. Tu sais pas comment faire, t'as peur de, tu sais pas comment le manier, tu dis si je le fais tomber, et à la fois vraiment un bonheur d'avoir ce petit être qui est là, qu'il faut protéger, et surtout moi je me souviens laisser les premiers pot à pot, les premières siestes avec lui, ou c'était vraiment vraiment génial, c'est une belle rencontre, des grands moments de partage.
Okay.
Et une nouvelle aventure qui commence.
Comment se passent les premiers jours, premières semaines à trois?
Plutôt cool. Moi, j'avais pris pas mal de congés. Alors, pas tout de suite après l'accouchement, mais pour le retour à la maison. Donc, je crois que j'avais réussi à avoir 5 semaines entre le congé parentalité qui était encore de 11 jours.
Il n'est pas encore à 28, mais ça arrive. Hein.
Ça va arriver. des congés payés qu'on avait gardés. Du coup, c'est un conseil. Prenez pas vos jours tout de suite. Prenez-les pour pour vraiment accompagner, parce que ça sert à rien quand les mamans sont à la maternité, elles ont pas besoin de vous, c'est juste le matin et le soir, ça va bien. Mais accompagner quand on rentre à la maison, être là pour qu'elle puisse se reposer et puis faire connaissance, quoi. C'est Donc, c'était cool. Voilà, un petit moment hors du temps, fait oublier tout le travail, toute la routine et commencer une nouvelle vie à trois pendant un peu plus d'un mois.
Et tu voulais parler plus spécifiquement de la crèche parentale et t'avais l'air de dire que la crèche t'avait vraiment aidé à grandir en tant que père.
Oui.
À quel moment ça se situe en fait dans la vie de votre bébé, je ne sais pas, à quel moment vous allez le mettre à la crèche en fait.
Alors on a commencé avec une assistante maternelle.
Ok.
Mais ça s'est mal passé pour des multiples raisons et du coup on s'est trouvé comme ça à chercher un autre mode de garde. Et on avait des connaissances qui étaient dans une crèche parentale qui nous ont dit oui c'est génial, venez, et du coup on a dit bah pourquoi pas, on va voir. Et l'avantage d'une crèche parentale c'est que pour y accéder c'est plus facile parce que c'est vraiment il y a moins de parents qui postulent parce que c'est moins connu.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la spécificité de la crèche parentale?
Ouais, le spécificité c'est que les parents doivent s'investir dans la crèche. Donc c'est une crèche qui est gérée par une association, tous les parents qui viennent, qui mettent leurs enfants adhèrent à l'association. Et donc il y a des professionnels de santé, directrices, des EJE, éducateurs de jeunes enfants, des CAP petite enfance qui sont là pour s'occuper des enfants comme une crèche normale. Avec les mêmes effectifs qu'une crèche normale parce que la CAF compte pas les parents. Et en plus justement il y a des parents qui font des permanences, donc c'était deux parents par demi-journée, mais qui du coup sont pas cadrés, ils sont pas comptés dans l'effectif, j'allais dire légal, du coup ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de parents que dans les autres crèches. Et
il y a plus de gens pour s'occuper des enfants.
Voilà, il y a plus d'adultes pour s'occuper des enfants. Et du coup, tu t'occupes de ton enfant, mais aussi des autres. Tout ça avec des professionnels de la petite enfance à côté de toi. Donc t'apprends, comment on change une couche, comment on gère les conflits, comment on détecte les besoins et. Et oui, moi, ça m'a fait grandir dans ce sens-là où j'ai tous les premiers trucs de parents, je les ai appris, quoi. Alors pas forcément tous, parce qu'on avait une vie en dehors de la crèche, mais il y a plein de choses que je voyais faire et que du coup je pouvais reproduire à la maison.
Parce que pendant ton congé, enfin, tu racontais justement que tu avais pris 5 semaines. De congé, tu vois, en plus de ton congé paternité. Enfin non, t'avais réussi à avoir 5 semaines en tout. T'avais eu du mal à te lancer un petit peu dans la vie de papa, quoi.
Non, parce que là c'était vraiment le début quand l'enfant est vraiment tout petit, il fait pas grand chose à part manger et faire caca.
T'accompagnes à l'été.
Oui.
Ok.
Voilà. Donc on était en allaitement. Ce qui est, et du coup, c'est plutôt pour après, quand il commence à bouger, quand il commence à avoir les dents, les choses comme ça, où là, on a appris les premiers antibiotiques, les premiers trucs comme ça. T'apprends à voir les premières interactions aussi. Donc on a appris des choses très très importantes, comme par exemple le fait de se mettre à la hauteur de l'enfant. C'est quelque chose qu'on nous a rappelé, c'était un des trucs primordiaux, c'était tous les adultes qui arrivaient dans la crèche, ils s'asseyaient. Il n'y avait aucun adulte qui parlait, qui restait debout, parce que du coup, c'est vrai que tu fais un rapport de différence.
Immense.
Voilà. Et te mettre, être assis, te mettre à la hauteur des enfants, du coup, t'as un dialogue d'égal à égal.
Mais pour revenir un petit peu à avant, t'avais pas d'appréhension, toi, de ce fait-là, de te retrouver. Ça te demandait combien de temps, en fait, au total, d'investissement, toi, dans ta vie. Il y avait un roulement, j'imagine.
Pour la crèche parentale.
Pour la crèche parentale.
Ouais. Alors ça demande de l'investissement. Moi, c'est moi qui faisais les permanences, donc à la crèche.
Dans le couple, tu peux choisir.
En fait, il y a tout le temps une seule personne.
Okay.
Et en général, c'est mieux que ce soit tout le temps la même, histoire d'habituer les enfants que ce qui est ça change pas.
Ok. C'est toi qui as dit. Donc c'est,
ouais,
c'est toi qui as postulé ou.
Je me souviens plus comment ça s'est fait, mais au final, c'est moi qui ai commencé. Et puis après, j'y ai pris goût et okay. Je voulais pas lâcher ma place.
C'était combien de.
C'était, du coup, c'est une demi-journée par semaine.
Ok.
Donc c'était des gardes de 3h, 3h30.
Donc et j'imagine donc, que pour le boulot, il faut
voilà,
quand même...
Voilà, ça prend du temps. Moi, pour le boulot, j'ai pu me mettre au début à 90% et après, j'ai demandé carrément à 80%. Parce que du coup, ça me laissait du temps libre après l'après pour faire des trucs
une
pour la maison.
Par semaine, donc, c'est
donc
ça.
Une journée par semaine, ouais. Pour faire d'autres choses pour la maison. Que du coup, c'est cool aussi. Ça prend... Donc, t'as à minima une demi-journée par semaine. Et en plus, en général, t'as une soirée par mois où t'as des réunions sur le fonctionnement, donc le fonctionnement de la crèche, les aussi sur de l'éducatif.
Ok.
Sûr. Donc on a eu pas mal de formations sur la communication non violente, parce que notre crèche, après je sais pas si c'est le cas de toutes les autres crèches, mais principalement oui, t'essayes de faire, c'est un peu axé sur une éducation bienveillante et avec voilà non violente sans.
J'imagine que ça dépend un peu des professionnels de santé qui accompagnent. Mais...
Je pense que ça dépend, mais je crois que pas mal de crèches parentales sont axées là-dedans, parce que du coup, c'est vrai que les gens ont envie de s'impliquer, et du coup, c'est pas forcément tout le temps, mais je pense que c'est un peu intrinsèque au fonctionnement.
Okay.
Et donc, il y a ça, et en plus de ça, il y a des parents qui font partie du conseil d'administration,
okay.
Parce que c'est une assoc, ouais. Et qui gère tout ça, et donc eux ils ont encore plus de taf parce que eux faut vraiment qu'ils c'est vraiment les employeurs de la crèche, donc ils gèrent la paye, les RH,
donc
le fonctionnement.
Ok, c'est vraiment voilà. Une asso,
c'est vraiment une asso,
c'est du bénévolat,
ouais. Okay. Du bénévolat et des formes du taf que t'as pas forcément à faire parce que tout le monde n'est pas nos ressources humaines ou donc faire les payes tout ça t'apprends un peu sur le tas, ce qui crée du coup c'est cool parce que ça te fait une nouvelle corde à ton arc, mais par contre ça crée des fois un peu de d'insécurité pour les employés parce que moi j'arrive à comprendre que les employés se disent bah voilà
ça va un peu dépendre sur qui ils tombent, voilà, parce que j'imagine en plus que ça tourne de cette là les effectifs.
Oui, oui non, ça tourne. Après les gens, il y a des gens qui ont plusieurs enfants comme nous par exemple. Donc nous on est resté au final 4 ans dans cette crèche. Il y a des gens qui restent 6 ans donc ça...
ouais. Mais finalement ouais, tu fais un peu pareil dans un boulot quoi. Tu peux rester 3 4 5 6 ans dans un taf et que
c'est ça.
OK.
C'est ça. Et du coup, ouais, c'est donc eux le CA, ils ont carrément plus de boulot parce qu'il faut gérer tout ce qui est financier et tout.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
OK. Pour les gens qui écoutent, vous entendez sans doute les bruits de fond. On est juste à côté d'une école, justement, de quartier. On reste dans le thème. Et on a préféré... Moi, je préfère laisser les fenêtres ouvertes qu'on cuise à l'intérieur. J'avais une question, en fait. C'est que à quel moment... Ça t'a pas fait peur, toi, à un moment donné, de te dire « Ok, je vais me retrouver, alors certes, à m'occuper de mon fiston, mais il va y avoir aussi plein d'autres enfants que j'ai pas choisi, entre guillemets, et dont il va falloir que je m'occupe, quoi, au premier abord. » C'est pas un truc qui t'a fait peur, toi ?
Non, parce que l'équipe était vraiment accueillante, et ils disent, voilà, tout de suite, ils te mettent dans un bain en disant « Bah, t'inquiète pas, fais... on est là. Si un truc que tu sens pas de faire, tu le dis et il y a pas d'obligation. Et c'est vraiment t'es pris par la main pour y aller petit à petit et faire vraiment ce que tu consens à faire et ce que tu te sens capable de faire.
Okay.
Donc au début, bah tu fais pas, t'es là, t'es discret, tu fais pas grand chose. Et puis après, petit à petit, tu prends confiance en toi et
tu gagnes en compétences
et du coup, tu fais de plus en plus de choses.
Ok. T'avais fait ton BAFA ou un truc comme ça?
Non.
Ok,
non.
D'accord.
J'avais rien fait.
Ok.
Après, j'ai pas mal de, je suis pas mal impliqué dans des trucs associatifs. Mmh. Du coup, je suis assez volontaire. Dès qu'il y a de l'action à faire, je suis partant. J'avais ce naturel-là à m'investir dans les trucs et du coup, non, ça s'est super bien passé pour ça et.
Qu'est-ce que ça t'a appris alors de prendre cette demi-journée par semaine? Alors j'imagine que tu faisais plus aussi à la maison, mais d'avoir cette demi-journée par semaine où tu te retrouvais de ce fait-là à faire des choses avec des professionnels de santé qui j'imagine en plus t'ont formé sur plein de trucs, qui t'ont peut-être aussi sensibilisé sur plein de choses. Qu'est-ce que ça t'a appris?
Du coup, oui, j'ai appris énormément de trucs sur la pratique, sur les gestes, le parler avec les enfants. Il y a pas mal de choses qui étaient sur le parler d'égal à égal et sur le consentement, qui est quelque chose qui est assez, on en parle beaucoup en ce moment,
qui est pas vraiment dans l'éducation d'une manière générale.
Non. Mais du coup là il y avait c'est quelque chose que j'ai appris où on disait toujours à l'enfant, même si l'enfant parlait pas, les actes qu'on allait faire pour qu'ils soient au courant, qu'ils soient, et puis après très vite on les poussait à de l'autonomie. Du coup, toujours proposer en disant, est-ce que tu veux t'essuyer tout seul ou je sais pas quoi. Et le faire, ça m'a appris pas mal de choses à faire grandir les enfants en disant, pas faire les choses à leur place, que même s'ils sont tout petits, qu'ils marchent à peine, ils sont capables de faire plein de trucs. De apprendre pas mal aussi sur les émotions des enfants, le fonctionnement de, c'est quelque chose qu'on appelle ta zone privée,
qui est,
je sais pas si c'est vraiment le terme, mais
c'est la bulle que
c'est un peu la bulle que t'as autour de toi, et du coup des fois tu vas avoir des réactions des enfants qui sont tout calmes mais qui d'un seul coup vont se mettre à taper quelqu'un parce qu'il y a un autre enfant qui est venu, qui est rentré dans son périmètre de et il avait pas à être là, quoi. J'ai besoin de mon espace. Et donc bien faire attention à tout ça, toi, c'est de faire attention à comment que les interactions que je peux avoir les uns avec les autres et c'est comment gérer des conflits, parce que forcément t'as des conflits comme de partout dans une crèche. T'as beau avoir quatre fois le même jouet, ils veulent tous le même,
bien sûr.
C'est normal,
on est des animaux après tout, hein.
Non, et puis en plus on avait le discours théorique derrière qui disait typiquement pour ça, qui disait l'enfant en fait il voit que l'autre enfant joue avec cet objet là mais il pense que c'est l'objet qui fait quelque chose, et du coup il veut cet objet là parce que l'autre, l'autre il y a personne qui rigole avec. Et c'est donc j'ai à apprendre tout ça sur le développement des pensées des enfants, et c'était vachement vachement intéressant. Et t'apprends du coup à réagir différemment à des choses qui se passent que si t'étais tout seul, tu te dirais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Et là, apprendre à avoir la théorie et de dire c'est normal, ça permet de relativiser, tu vois, de changer tes actions et tes réactions.
C'est un truc que t'avais pas du tout envisagé avant de te retrouver dans ce contexte-là, c'est ça? T'avais pas du tout cette connaissance-là?
Ah non, non, pas du tout. On n'avait pas du tout, comme moi personnellement, j'avais pas du tout potassé ça avant. Et c'est d'être mis dans ce bain-là, du coup, t'es un peu plongé dans un océan comme ça, et puis et apprendre à nager au milieu de l'océan, mais c'était vraiment vraiment génial. C'est quelque chose que j'aurais peut-être pas fait si j'étais pas je me serais peut-être pas renseigné, et si j'étais pas tombé dans ce cadre-là.
Et comment ça se passait avec ta compagne qui j'imagine de ce fait-là enfin, n'assistait pas à tout ça, puisque elle travaillait ou elle faisait autre chose de sa vie, en tout cas pendant cette journée-là. Ça n'a pas créé une forme de décalage entre vous aussi, ou tu l'as débriefé, enfin, je ne sais pas comment ça se goupille entre vous.
Si, ouais, y avait pas mal de débriefing. Où du coup, je lui expliquais ce que j'avais fait, ce qu'on avait fait.
Surtout qu'avec vos esprits d'ingénieur, là, à un moment donné, j'ai appris un nouveau truc.
C'est ça. Il y avait un retour sur expérience et tout et tout. Là, on parlait beaucoup de ce qui s'était passé, et je lui faisais partager mon expérience elle avait aussi, en fait, t'apprends aussi, même si tu fais pas, t'occupes pas des autres enfants, t'es au contact, quand tu vas chercher ton enfant, t'es au contact des professionnels, et du coup, t'as un peu de transfert de connaissances à ce niveau-là.
Ok.
C'est arrivé qu'elle me remplace des fois où moi je pouvais pas, où j'avais je sais pas quoi. Donc elle a fait quelques permanences aussi à ma place, mais c'était.
J'imagine que ces professionnels de santé, là, ils sont tout aussi formés à s'occuper des enfants qu'à vous former, vous, en fait, parce que c'est un autre travail, limite.
Alors, ils ne sont pas forcément formés dans leurs études, mais après, il y avait, il me semble que oui, qu'on faisait que l'association, du coup, faisait des moments de formation sur comment être professionnel de santé dans une crèche parentale et comment gérer ses employeurs. C'est un peu ça.
c'est vraiment plus.
Et du coup, oui, on leur mettait à disposition des formations comme ça.
Et qui leur donnait ces formations?
Il y a pas mal d'organismes maintenant d'accompagnement qui sont là pour les aider. Donc, ça fait un petit moment qu'on n'y est plus, mais il y avait genre la PMI, je crois.
Okay.
Donc, il y a des organismes qui doivent dépendre du ministère de la Santé ou de l'Éducation, je ne sais quoi. Qui sont là pour vérifier, et puis c'est pas une crèche sauvage comme parce que l'histoire de notre crèche, c'est partie d'une crèche sauvage. Donc une crèche sauvage, c'est des familles qui se mettent qui ont pas de mode de garde et qui se disent on est 5 familles, on se prend un appart et on se met ensemble et y a une famille par jour qui s'occupe des autres enfants. Donc nous, notre crèche parentale était partie d'un truc comme ça,
okay.
Où ça c'est vraiment pas du tout cadré, t'as rien, c'est vraiment les parents qui se mettent ensemble pour se débrouiller. Nous c'est cadré, donc t'as la CAF qui surveille le taux d'encadrement, on a des subventions de la CAF aussi pour que ça roule, donc c'est pas juste les parents qui payent le fonctionnement. T'as des rendez-vous de la PMI pour vérifier que ça se passe bien. Donc en plus du côté de vérification, t'as aussi un côté d'accompagnement qui est fait et qui permet que les employés aient une formation, un recours aussi pour si jamais ça se passe mal.
Et aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut décider de monter une crèche parentale tu sais pas trop, non?
Ça, je sais pas, parce que nous on est arrivé, c'était déjà monté, donc.
Okay.
Je pense que n'importe qui peut monter une assoce et trouver du monde. Alors après, ça doit demander du boulot, parce que il faut trouver des professionnels de santé, des locaux. Nous, on avait des locaux qui étaient prêtés par la mairie.
Ok.
Donc, il doit falloir avoir des démarches pour. Mais oui, pour moi, il n'y a pas de besoin de professionnel.
Bon, si vous connaissez les gens, je vous mettrai un lien si vous voulez venir partager sur le forum, parce que ça peut servir à ça aussi, hein, finalement. Si vous avez plus d'infos que Loïc, en même temps, je peux comprendre que tu sois là. Moi, j'ai juste profité du truc et j'ai kiffé, et tant mieux. Mais si jamais vous l'avez fait d'une manière ou d'une autre, peut-être venez partager avec le reste des auditeurs et des auditrices, quoi. C'est toujours cool. Et comment ça se passe avec ton petit deuxième? On en a pas parlé.
Du coup, un petit deuxième qui arrive, ils ont donc à peine 2 ans d'écart, on voulait plusieurs enfants, des enfants rapprochés, histoire qu'ils jouent ensemble. Moi, j'ai personnellement une grande sœur, mais on a 5 ans et demi d'écart.
C'est un peu beaucoup.
Et du coup, moi, j'ai pas de souvenir d'échange avec ma sœur, je l'ai vraiment découverte quand on était adulte. Et du coup, je voulais vraiment que mes enfants soient rapprochés. Et du coup, il est arrivé comme ça, des nouvelles aventures. Enfin, deux fois plus, voire même un peu plus de plaisir et de manque de sommeil et de choses compliquées.
Deux ans d'écart, c'est tendu, hein.
Ouais.
Parce que l'aîné est encore petit, quoi.
Ouais, non, l'aîné est pas encore autonome. Ouais. Puis en plus, bah, du coup, il perd un peu son côté de superstar. J'ai mes parents à moi tout seul, donc forcément.
Ouais, est-ce que t'as eu droit à, ça y est, je décide de chier sur le parquet parce que finalement, occupez-vous de moi.
Non, on n'a pas eu ça. Ce qu'on arrivait avec deux, on arrivait quand même à pas mal s'occuper de lui.
Okay.
Mais
ma fille aînée, elle a fait des trucs comme ça. Hein, tu vois, elle était quasiment propre quand sa petite sœur est née, et vraiment, elle est retombée pendant quelques mois. Moi, j'ai pissé là. Maintenant, merdez-vous.
C'est ça. Fais ce que tu veux avec. C'est bon.
Coucou Lina, si jamais t'écoutes. Les grands, ces salauds de balancer les trucs comme ça. Rebelote, crèche
ouais,
again.
Bah, du coup, crèche direct.
Ouais.
Donc, on a eu un moment où ils étaient tous les deux à la crèche, une année.
Et donc, de ce fait-là, toi, ça reste toujours une demi-journée, même si t'as deux enfants,
non,
c'est ça?
Non, t'as qu'une demi-journée, quel que soit le nombre d'enfants. Ah, mais par contre, après, c'est une demi-journée si tu mets ton enfant 5 jours par semaine. Quoi, ce qu'on avait dans la crèche où on était, on avait les gros contrats et les contrats longs et les contrats plus sur 2 ou 3 jours.
Okay.
Et du coup, c'est en fonction du nombre de jours que tu mets, tu fais soit une demi-journée par semaine, soit une demi-journée toutes les deux semaines.
Okay.
C'est en fonction de. Ça dépend du taux de remplissage, parce que c'est aussi un casse-tête de faire le remplissage planning,
ouais.
Tout le monde trouve des jours et qu'il n'y ait pas de trous.
Est-ce que vous étiez combien de familles au total?
On avait droit d'avoir 27 enfants.
Ah,
et
okay.
Du coup, 27 enfants, ça fait pas 27 familles, parce que comme nous, il y a des gens qui ont deux enfants, et il y avait des places où on gardait la crèche avait volonté aussi de s'intégrer dans le quartier où elle était. Parce qu'on est dans un quartier populaire de Villeurbanne, et du coup il y avait des places en halte garderie pour les gens du quartier qui ont des difficultés soit financières soit je sais pas quoi, qui pouvaient mettre leurs enfants et du coup ça faisait vraiment une intégration dans le quartier qui était importante aussi d'un point de vue mixité sociale et qui est un point de vue qui est sympa.
Ok.
Toi,
t'as continué alors, t'as continué à faire ta demi-journée.
Ouais, moi, j'ai fait mes quatre années de suite.
Ça te convenait vraiment? T'as pas eu un moment donné une lassitude ou tu vois d'aller voir ta compagne et de dire bah peut-être on peut switcher pour le deuxième?
Non, mais j'ai vraiment adoré les quatre années. Après, à la fin de la quatrième année où ça commençait à te faire long, et du coup c'était bien qu'on arrête. Mais j'ai jamais eu de lassitude. Moi, c'était vraiment un peu ma bulle d'oxygène dans la semaine. En plus, moi, en général, c'était le début de la semaine, donc du coup, je commençais ma semaine cool. Et puis j'étais rempli d'énergie pour après aller au boulot. Et ça fait vraiment une cassure de notre activité. Et c'était vraiment sympa.
Ok.
Et puis en plus, ouais, du coup, j'avais plein de trucs à raconter à mes collègues. C'était sympa. C'était les pauses café. Fait, oui, non, tu sais pas ce que j'ai fait hier. Et du coup, tu apprends à tes collègues pas mal de choses.
C'est un truc que tu...
transmission.
C'est un truc que tu valorisais, toi aussi, cet aspect-là, vis-à-vis de tes collègues. Parce que tu sais, alors je sais pas trop comment ça se passe aujourd'hui dans les boîtes, mais il y a un truc où c'est toujours un peu mal vu, tu vois, d'aller s'occuper de ses enfants quand on est un homme, quoi. Je sais pas trop comment ça se passait dans ta boîte, d'ailleurs, mais...
Moi, il y avait... pas trop de jugement comme ça, mais après moi je le valorisais, je faisais pas non plus de l'évangélisme, mais j'étais prêt à en parler à qui voulait l'entendre, quoi. C'était pas, je le cachais pas, il y avait pas de, j'en étais, ouais, donc j'étais un peu fier de faire ça et de faire ma part et de commencer la révolution qui est en marche. Et j'en parlais et c'était plus des anecdotes. Après, j'ai pas converti des gens, mais bon, après,
c'est des petites graines,
c'est ça
que tu sèmes. Puis là, t'es encore en train de le faire, tu vois.
Oui.
Et comment, quand tes enfants ont fini par aller à l'école, comment ça s'est passé? Tu t'es retrouvé à repartir dans une vie où t'es toujours aujourd'hui à 80% dans ton taf ou...
Alors non, moi j'ai repris à 100%.
Ok.
Au début, j'avais continué mon temps partiel. J'ai repris à 100% quand les enfants ont été à l'école.
Parce que t'as quand même, j'imagine,
j'ai eu 4 ans,
une année ou deux où ton fiston, ton aîné de ce fait-là, il allait à l'école, non?
Ouais, il a eu 2 ans où il était à l'école et son frère était à la crèche.
Ok.
Ouais. Donc du coup, bah là, on faisait, on posait le grand à l'école et puis après, bah je le posais à l'école et après je faisais ma permanence. Okay. Soit autrement, on posait le petit à la crèche et puis après je posais à l'école et puis après j'allais au travail.
Ok.
Et du coup non, moi j'ai continué et après bah ça m'a donné le goût et là je continue avec les parents d'élèves, continué à m'impliquer dans l'éducation de. Ça m'a donné le goût ouais, de m'impliquer dans l'éducation de mes enfants. Et de suivre et que d'être acteur pour que, okay. pour que ça se passe bien.
Et question un peu à deux balles, mais il y a d'autres papas avec toi. Globalement, même à la crèche, tu vois, il y avait d'autres pères qui s'impliquaient.
Alors ouais, à la crèche, ouais, c'était pas 50-50, mais il y avait plusieurs papas qui s'impliquaient. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait toutes mes permanences avec un autre papa et avec qui on a gardé contact. On est devenus bien potes. Et du coup, c'était, voilà, la team double papa qui était là. Donc, il y avait pas mal de pères. Alors, pour faire des chiffres, je dirais un bon 30-40%.
Ok.
Donc, c'était.
Work in progress, hein.
Oui. Et puis après, dans les autres trucs, dans les parents d'élèves, c'est moins. Il y a moins d'applications, mais non, la crèche. Alors après la crèche, on est les gens qui étaient impliqués, c'était un peu de l'entre-soi. Quoi. C'était ceux qui venaient, c'était un peu les mêmes cadres socio-professionnels. Ouais. Donc il y avait pas vraiment de mixité. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouvait. C'était un peu déjà des convertis. C'est,
ouais.
Mais bon, après, on peut pas.
Ouais, mais
ça va venir.
Bien sûr. Et puis en montrant en plus aux enfants que je crois aussi qu'il y a un truc comme ça. Tu vois, quand tu montres aux enfants que qu'il y a des papas qui peuvent être là, quoi. Tu vois, il y a un truc aussi où peut-être ça se joue à la maison, quoi. Tu vois, de tiens, en fait, il y avait le papa. Quand est-ce que tu viens? Bon, bref. J'ai en tête. Justement, une lectrice de Mademoiselle, lyonnaise d'ailleurs, qu'on avait rencontrée à l'époque avec Mimi et tout, qui était instit, prof des écoles, et qui obligeait les pères à venir chercher leur gamin au moins une fois par semaine. Parce qu'elle était dans Paris, elle était dans un quartier populaire en fait, ouais. Et elle mettait à l'amende les darons qui venaient pas... vraiment en leur passant un coup de fil et tout, en leur disant monsieur, moi je vous attends, j'ai pas le temps, j'ai du travail et tout, bah venez samedi matin, je vous attendrai, venez le chercher, venez le déposer, venez le chercher.
Oui, non, c'est...
C'est une nouvelle génération de profs. <C'est Ouais. rigolo. rire> qu'est-ce que t'as la sensation que ça t'a appris à toi aujourd'hui, maintenant que tes fistons 8 et 6, dans ta relation à eux?
Ça m'a appris à être plus posé de temps en temps et surtout à dialoguer, quoi, à essayer de dialoguer, parce que c'est pas tout le temps facile, autant pour eux que pour nous, parce que forcément des fois t'es débordé par tes émotions et puis ou alors t'es fatigué.
Et au moins le simple fait de les reconnaître déjà, voilà. Tu vois, le simple fait de dire. T'es débordé par tes émotions, déjà rien que ça c'est
déjà un gros travail. Et oui, donc à essayer de parler, de communiquer, de c'est vraiment quelque chose qui a été fondateur dans toutes ces années que en parlant on arrive à résoudre plein de problèmes facilement. C'est écouter les autres, c'est surtout ça, surtout le écouter, oui. L'écoute, parce que parler c'est bien beau, mais si t'écoutes pas, ça
en
marche pas.
En communiquant, donc.
En communiquant, voilà, c'est ça. Donc ouais, non, vraiment la communication, mais qui est que je revois dans le travail, c'est c'est les mêmes enjeux, c'est même pareil, c'est il y a Cédric de Papa Patriarca qui en parle, oui. Qui en parle souvent, qui fait souvent le parallèle entre son activité professionnelle de suivi dans les entreprises et ses enfants, où il dit c'est les mêmes problématiques. Et oui, il n'y a pas de secret, quoi.
Si vous n'avez pas la ref, Cédric de Papatriarca, il s'est retrouvé donc dans le podcast. C'est pareil, je vous mettrai le lien dans les notes. Et il a effectivement un podcast où il parle de tout ce qui est communication de manière générale.
Parentalité.
Il parle de plein de choses dans son podcast. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, des questions que je t'ai pas posées à propos des crèches parentales où tu te dis, tiens, il est passé à côté de ce sujet, parce que moi j'ai un avis complètement naïf sur le sujet, je connaissais pas du tout le sujet, tu m'as appris plein de choses, mais peut-être j'ai raté une question, j'en sais rien.
Quand j'étais en permanence, je m'occupais d'un atelier de peinture, l'assistant d'un atelier de peinture selon la méthode d'Anne Horstern, qui est de la peinture bienveillante sans jugement. Donc c'était une intervenante extérieure qui venait, qui s'appelle Lou Jepin. Un petit peu de pub.
Coucou Lou.
Les enfants, ils avaient Arnaud Stern, il a inventé une table palette. Donc en gros c'était une table avec plein de couleurs et un pinceau par couleur. Et les enfants pouvaient prendre la couleur qu'ils voulaient et faire le dessin qu'ils voulaient. Et il n'y avait pas le but, c'était vraiment que de libérer l'expression des enfants, sans juger en disant on n'a pas le droit de dire c'est beau, c'est pas beau. Oui. Fallait juste dire c'est bleu. C'est un rond.
C'est un pingouin.
Même ça, fallait.
Ah oui, parce que.
Pingouin, ça veut dire que tu t'analyses quelque chose et si l'enfant dit non, c'est un dragon, fait. C'est un dragon.
Ton dragon est superbe. Et merde, j'ai encore raté.
Donc non, c'était vraiment factuel. C'était un côté de super intéressant où l'intervenante arrivait à créer une bulle vraiment dans ce petit atelier où les enfants changeaient. T'avais vraiment les enfants, ils venaient et tu redécouvrais les enfants, quoi.
Ah ouais?
Moi, j'ai un souvenir d'un enfant qui était un peu bougeon et se bagarrait un peu avec les autres. Et les premières fois où je l'ai fait venir à l'atelier, j'avais un peu une appréhension en me disant, ça va mal passer, il va falloir le gérer. Et dès qu'il rentre dans l'atelier, c'est un autre enfant. L'enfant est posé et calme et ça se passe super bien. Pas de conflit, rien. Il fait son truc. Et c'était vraiment, vraiment intéressant de ce côté-là.
C'est limite de l'art-thérapie, non?
Ouais, ça se rapproche. Ouais. Ouais. C'était vraiment cool. Et moi, en plus, avec ma volonté d'agir, je me suis impliqué, j'ai fait comme elle, donc je l'ai suivi en disant parce que j'étais pas obligé de m'occuper des enfants, je pouvais très bien faire juste emmener les enfants de l'extérieur et venir, et puis après moi faire
Dans son atelier à elle, c'est ça?
Non, c'était dans la crèche.
C'était dans la crèche.
Donc on avait une pièce dans la crèche, mais du coup elle fallait pas qu'elle quitte la pièce, et du coup il fallait un adulte pour gérer les enfants qui voulaient sortir, donc enlever le tablier, leur se laver les mains, et ou alors s'il y en a un qui voulait faire pipi ou quoi que ce soit. Donc gérer les transferts.
Tu étais l'assistant, quoi.
Et voilà, j'étais l'assistant. Et du coup, l'assistant, il n'y avait pas obligation d'accompagner, selon la philosophie d'Arnaud Stern. Mais moi, ça m'a plu et j'ai très vite pris le truc.
Tu t'es mis à peindre?
Alors non, moi je peignais pas.
Ok.
Mais par contre, j'accompagnais les enfants. Donc je les accompagnais sur comment bien prendre le pinceau, bien respecter le matériel, bien ne pas courir, garder ce côté calme. Et ça m'a appris un truc, c'est les adultes en général, on a tendance à faire à la place des enfants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans cet atelier-là où fallait pas prendre la main de l'enfant pour lui faire faire un rond. Mais vraiment être un support, donc c'est une super belle philosophie, c'est être un support à sa main. Donc tu mets ta main sous la main de l'enfant et tu la guides pour pas qu'il appuie trop fort, mais c'est lui qui fait le mouvement. Donc s'il part vers la gauche, tu l'accompagnes, mais c'est juste que tu retiens sa force pour pas qu'il appuie trop, ou alors tu l'accompagnes pour qu'il appuie un peu plus, parce que c'était vraiment ça. Cet atelier était vraiment vraiment génial. C'est une grande découverte de comment accompagner les enfants sans les forcer à faire les forcer à faire ce que toi t'as envie. Non, c'est vraiment un côté d'accompagnement.
Très chouette allégorie de l'éducation.
Ouais,
en somme.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a un répertoire quelque part des crèches parentales ou juste il faut aller chercher dans son quartier?
Non, je pense
quartier,
qu'il faut, ouais, faut chercher dans sa municipalité, okay, et dans son quartier. Moi, je connais pas d'annuaire officiel de tout.
D'annuaire. Ok. Loïc, tu écoutes un peu le podcast, donc tu connais ma dernière question. Alors Maxime et
Camille, pardon.
Et Camille, si demain Maxime et Camille se retrouvent dans 10 piges à écouter ce podcast, ils auront donc 16 et 18, ce sera des grands dadés.
Oui, papa.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Donc j'ai essayé de préparer, mais c'est toujours aussi dur quand une fois que t'es devant la question. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que déjà que je les aime très fort, ce qu'il faut toujours leur dire, ne jamais arrêter de leur dire, et leur dire que de continuer d'être eux-mêmes et de communiquer et de c'est pas grave si on fait des erreurs. Je m'excuse pour toutes les erreurs que j'ai faites, mais être conscient de ces erreurs et continuer à avancer et qu'on progresse comme ça, et c'est le bon moyen de réussir.
Est-ce que tu as envie de continuer à t'investir? Alors là, tu parlais de l'association de parents d'élèves. Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'il y a des moments? Est-ce que tu as envie de continuer à avoir des moments avec eux en grandissant comme ça? Est-ce que tu as la volonté de réussir à trouver des moments comme ça?
Oui, on partage. On essaie d'être. C'est un peu ambigu. On essaie de les rendre autonomes pour avoir du temps pour nous aussi.
Ouais.
Mais on partage quand même pas mal de trucs. Et moi je serais toujours prêt pour partager des moments avec eux, tout en les laissant grandir en les suivant, parce que ça, je suis très intéressé par ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent me surprendre.
Ils font des activités en dehors de l'école?
Ils font du sport. Okay. Ils font pas mal de sport. Là, on va attaquer la musique.
Ok.
Ce qu'ils étaient. Ouais, mais ça, c'était plutôt le côté de pas faire que du sport et de tout, voilà, d'essayer de leur proposer plein de trucs.
Piano, guitare.
Là, c'est plus de l'éveil.
Ok.
Éveil, musique, chant.
Ok.
Parce que tous les deux. Alors nous, on chante pas mal à la maison.
Ok.
On adore ça et du coup, c'est.
Là, vous faites que chanter. Vous jouez pas.
Non. Ok. On fait que chanter. Les enfants à la chorale à l'école, ils adorent ça aussi. Hmm. Donc du coup, on chante souvent des chansons ensemble leur faire tester un peu tout quoi. Musique, du sport pour se dépenser. Et voilà, le sport, on n'a pas de. On fait pas. Je les oblige pas à faire le même sport que moi, c'est vraiment ce qu'ils veulent.
Ils font quoi?
Le grand fait du tennis et le petit du judo.
Ok. Et toi, tu fais quoi comme ça?
Et moi, je fais du handball.
Ok, d'accord.
Donc, je suis pas mal impliqué dans mon handball aussi. Ouais. Parce qu'on a monté une équipe et du coup, c'est sympa. Et ça,
t'as pas tenté de les soudoyer un peu pour qu'ils s'y mettent, non?
Non, j'ai pas.
Ou alors de les faire dribbler depuis qu'ils sont tout petits, tu sais.
Non, j'ai pas. Puis c'est pas une volonté, quoi. C'est une activité que j'ai pour moi. Ouais. Après, je serais très content si jamais ils s'y mettent après et qu'ils veulent. Je serais content de les soutenir et de les accompagner. Mais j'ai pas envie de leur imposer. C'est vraiment mon activité. C'est mon truc à côté mon truc perso qui me permet de sortir et de faire d'autres choses.
Okay.
Donc c'est cool.
Bah merci beaucoup Loïc.
Merci à toi.
Et puis les gens, désolé, peut-être parfois c'était un peu fort les cris des enfants, mais bon, c'est un bruit de fond. Quoi.
C'est ça, c'est la vie, ça va avec le thème.
Un grand merci à toi Loïc.
De rien,
à plus.
Salut.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.